Je voudrais saluer ceux et celles qui nous rejoignent ce soir, qui n'ont pas pu être des nôtres depuis le début de ce week-end. Je voudrais vous dire à nouveau ma joie de partager avec vous la parole de Dieu, la présence du Seigneur. On m'a demandé de me présenter au début, dans la première réunion. Je ne le referai pas ce soir, mais j'ai eu à cœur pendant les chants de vous dire de quelle faculté de théologie je viens. On ne me l'a pas posé ici, on me l'a posé souvent ailleurs. Mon épouse et moi, nous venons de la faculté des coups durs. En 1968, nous étions fiancés. Ma femme est d'origine juive pied-noir de Constantine. Et la famille là-bas avait connu une jeune fille qui a eu une déception sentimentale et qui, à partir de là, a été déséquilibrée sur le plan psychique. Celle qui allait devenir ma belle-mère suite aux événements d'Algérie est rentrée en France avec veuve, avec deux valises et ses enfants. Photographe professionnelle, elle s'est installée dans la région de Rouen. Et puis, celle qui est devenue ma femme, entre-temps, a découvert l'Évangile, s'est convertie. Nous nous sommes connus, fiancés. Et en 1968, donc, je faisais mon service militaire en Allemagne. Nous nous écrivions tous les jours comme des fiancés brûlants. Et dans cette période, cette jeune fille qui avait été connue en Algérie débarque un jour, comme ça, dans le magasin de photos de ma belle-mère. Et puis reste là quelques jours, regarde ma photo, la photo de ma fiancée, et puis à plusieurs reprises, demande à ma fiancée si c'était possible qu'elle l'emmène se promener en voiture. Moi, à l'époque, je n'avais qu'un Solex, ma fiancée avait une 4L, je me dis, ça c'est la fille qu'il me faut. Oui, donc ma fiancée, c'était intuitif, ne tenait pas à se trouver seul avec cette fille. Et puis, un certain vendredi après-midi, ils habitaient au 14e étage d'une tour, à Marome, donc dans la banlieue rouennaise, il s'est trouvé que ma fiancée était là, seule, avec cette fille. Et cette fille dit à ma fiancée, « Je voudrais me laver les pieds, ça serait bien que tu me donnes une bassine. » Et ma fiancée lui dit, « Tu as la salle de bain, tu peux te laver les pieds dans la salle de bain. » Non, non, elle a insisté. Bon. Et ma fiancée, qui était très gentille et qui est devenue de plus en plus gentille à mon contact, lui a donné sa bassine et elle lui dit, « Prépare-moi un café. » Alors, ma fiancée va dans la cuisine, prépare un café pour la fille, et tout en préparant le café, elle regarde, et la fille avait un mouchoir sur le nez, et elle était en train de verser le contenu de deux bouteilles dans la bassine. Oh, elle se dit, ça certainement un produit pour se laver les pieds. Donc, elle continue à préparer les choses dans la cuisine, jusqu'au moment où elle entend son prénom derrière elle. On l'appelle, c'était la fille. Ma fiancée se retourne et verse la bassine sur la figure de ma fiancée, 2 litres d'acide chlorhydrique pur. La fille avait bloqué l'ascenseur, un taxi la tombait en bas. Ma fiancée a hurlé de douleur. Les voisins du dessus, ceux du dessous sont montés. C'était en juillet, elle portait des sous-vêtements en nylon qui ont été rongés par l'acide instantanément. est réduit à la dimension d'un mouchoir de poche. Et puis ma fiancée a été amenée d'urgence à l'hôpital. C'était encore les chambres, les grandes chambres à une dizaine de lits. Et ma fiancée demande que le pasteur, puisqu'on est sur une équipe de pasteurs, le pasteur principal vienne la voir. Donc il est entré dans la chambre, il est passé de lit en lit, et il ressortait de la chambre parce qu'il ne l'avait pas reconnue. C'est elle qui l'a appelée. Le visage avait gonflé au double. La lèvre supérieure a daigné le nez. Et pour la petite histoire, par les vapeurs d'acide, la peinture de la cuisine a changé de couleur. La gazinière a rouillé par les vapeurs d'acide dans tout l'arrière de la gazinière. Cet homme était un homme de Dieu avec un ministère béni, je se dis puissant par la grâce de Dieu, un homme qui a vu des miracles dans sa vie. Mais quand il est rentré chez lui, il s'est affalé dans son fauteuil et il a dit à sa femme, Madeleine est défigurée pour la vie. Mais le soir, il y avait une réunion avec l'église. Alors ils ont prié pour mon épouse maintenant et le visage a repris ses dimensions normales. Il s'est formé des croûtes qui sont tombées d'elles-mêmes. Et sous les croûtes, la peau était absolument normale. Ma fiancée était bras nu quand c'est arrivé. Elle a pris une goutte d'acide sur le bras. Et là, sur 1 cm², la peau est restée entièrement brûlée. Et nous disons à chaque fois, ça c'est la signature de Dieu. Parce que si Dieu n'était pas intervenu, tout le visage restait marqué à vie. Et nous bénissons Dieu. C'est un Dieu de miracles. Amen. Mais vous savez que dans de telles affaires, parfois il y a des cellules psychologiques. Parce que le coup en lui-même est une chose, les conséquences psychologiques en est une autre. Et ma fiancée ne pouvait plus rester seule dans l'appartement. Elle dormait dans la chambre de la maman. Elle était incapable d'être seule. Il y avait un choc psychologique. Jusqu'à un samedi où elle s'est enfermée dans sa chambre et elle a prié. Et là, ne me demandez pas comment Dieu fait. Ça a été instantané. Ce trouble psychologique a disparu et ma fiancée a retrouvé sa paix. Alors je ne sais pas si quelqu'un ce soir a besoin de la grâce de Dieu dans son corps. Mais je crois à un Dieu de miracles. Et quand il surviendra des épreuves qui peuvent nous ébranler, vous ébranler sur le plan psychologique, je vous supplie d'avoir recours au prince de la paix qui, dans la barque, ballotté par la tempête, est capable d'imposer silence au vent et à la mer. Alors ça, c'était la classe préparatoire à l'école de théologie des coups durs. Je ne peux pas vous raconter ensuite toutes les classes parce qu'on y sera encore à minuit, mais je vous prêche la parole de Dieu, je suis comme vous, ce n'est pas une théorie, c'est une vie. Dieu est notre vie, Christ est ma vie. Et c'est ça que nous partageons encore ce soir et jusqu'à demain midi. Nous avons parlé aujourd'hui de transférer la royauté à Christ, nous sommes sur le thème d'avoir l'intelligence des temps. Nous avons parlé d'Issacar. Et ce soir, nous allons parler de la responsabilité de l'Église au sein d'un monde qui n'a pas l'intelligence des temps. Et ça, c'est une évidence. Alors, je vous propose de lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 5 et au verset 21. Genèse, chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch après la naissance de Methuséla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Nous parlons d'avoir l'intelligence des temps en tant qu'Église de Jésus-Christ. Que signifie, au fond, avoir l'intelligence des temps? Ou comme le soulignent d'autres traductions, discerner les temps, ou encore connaître le discernement pour les temps, qu'est-ce que ça veut dire? Nous précisions ce matin que discerner, c'est voir à travers. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui est apparent, de ce qui peut se voir, de ce qui s'entend, de ce qui peut se constater, on perçoit derrière tout cela ou au travers de tout cela une réalité plus profonde. Qu'est-ce donc que discerner les temps? C'est pour vous, ma sœur, mon frère, pour moi, la capacité spirituelle que le Seigneur va nous donner de connaître la nature exacte de l'époque dans laquelle nous sommes. Et qu'au-delà de ce qu'on peut voir, entendre, de ce qui se passe sur la planète aujourd'hui, que nous allions plus loin dans notre regard spirituel et que nous voyions au-delà, au travers de ça, découvrir les choses par rapport à la personne de Dieu, à la nature de Dieu, à ses pensées, ses intentions, ses plans. Parce que Dieu n'est pas hors dehors de l'histoire. Dieu est dans l'histoire. Discerner les temps, c'est connaître à quelle heure de l'histoire nous nous trouvons. Et je dis au-delà des simples faits qui se déroulent sous nos yeux. Et c'est d'être capable alors d'agir et de réagir comme Dieu l'attend vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis d'un monde qui se perd. Alors je vais prendre quelques exemples de l'Ancien Testament. Tout d'abord, nous, c'est vrai que ce n'est pas l'Église, mais nous parlons de l'intelligence des temps. Et nous allons voir que le monde ne peut pas avoir l'intelligence des temps. C'est quelque chose que Dieu communique aux siens. Et que si le monde, lui, ne peut pas discerner les temps, nous sommes appelés à le faire. Et nous allons voir quelques exemples de l'Ancien Testament très significatifs. Nous avons parlé d'Enoch. Pourquoi lire ce chapitre 5 et en particulier ce qui est dit d'Enoch, cet homme de Dieu? Si vous lisez attentivement le chapitre 5 de la Genèse, c'est comme une espèce de cantique monotone. Chaque strophe est faite de la façon suivante, le nom d'un homme, son âge à la naissance du premier enfant, le nombre d'années qu'il a vécu après la naissance de ce premier enfant, le fait qu'il a eu encore des fils et des filles, le nombre total des années de sa vie, et enfin sa mort. Et ça revient tout le temps, tout le temps. Tout au long du chapitre, vous avez ça. Comme un long refrain monotone. Qu'est-ce que c'est que la vie de ces gens-là? Leur personne et leur famille. Et ça ne va pas plus loin. Et je dirais que, sans parler d'impiété, certains chrétiens vivent ainsi. Pas en Suisse, mais en France. Certains chrétiens vivent ainsi. On pourrait les impliquer dans ce chapitre 5 de la Genèse. C'est leur petite famille, leurs affaires, et c'est tout. Et là, subitement, dans ce chapitre 5, émerge une strophe tout à fait différente. Un homme qui va se démarquer de son temps et qui va avoir l'intelligence des temps. Oui, la strophe commence par son nom. Oui, on connaît son âge à la naissance du premier enfant. Oui, on connaît le nom de son premier enfant. Mais ensuite, il y a là un homme qui a l'intelligence des temps. Il marche avec Dieu. Alors, ne me demandez pas comment, au milieu de tout ça, cet homme-là s'est démarqué et a pu marcher avec Dieu. La Bible a un silence éloquent, mais le fait est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la naissance de ce premier enfant, la Bible ne dit rien. Mais ce que je remarque et ce qui est encourageant, c'est qu'Enoch a marché avec Dieu. Et c'est dit deux fois. Et puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Quelle différence dans le résumé de sa vie. Dieu y est au centre. Il marche avec Dieu. Et vous remarquez qu'au terme du voyage, il n'y a pas la mort, mais il y a l'enlèvement et il y a la vie éternelle. Je ne sais pas si Jésus va revenir avant la fin de la réunion. J'aimerais tellement. Ça serait la plus belle réunion dans laquelle nous allons entrer. Je ne sais pas combien de temps va s'écouler encore devant nous. Je ne sais pas si nous connaîtrons la mort ou l'enlèvement. Mais ce que je sais, c'est que ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est qu'au sein d'un monde où il n'y a que les affaires, les petites affaires personnelles qui comptent, nous soyons un homme ou une femme qui marche avec Dieu. Je ne vais pas prendre le temps de vous conduire vers ce texte parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous ce soir et je vais essayer d'être concis, mais vous savez que dans l'épître de Jude, on en apprend plus sur Enoch. Il y avait l'esprit prophétique sur lui. Et il a prophétisé contre les impies. Il a dit qu'un temps de jugement allait venir et que Dieu allait faire rendre compte à tous les impies qui se manifestaient dans leur vie contre le Seigneur. Donc c'est un homme qui marche avec Dieu et qui a l'intelligence des temps et qui se dit « Mais le monde dans lequel je suis, ça ne va pas pouvoir durer comme ça indéfiniment. Dieu va exercer ses jugements. » Et l'Église devrait vivre dans cette alerte-là, constamment. Nous sommes dans la grâce, nous vivons de la grâce, nous vivons de Jésus, nous avons le privilège de connaître le Seigneur, nous marchons avec lui, et il faut que nous soyons en permanence dans cette conscience que le monde est en train de dévaler vers le jugement. Je ne parle pas de votre pays, je parle du mien. Notre Terre de France est dans un tel état, il y a de telles lois qui se mettent en place que nous sommes en train de mûrir pour le jugement. Notre pays vote des abominations. Notre pays devient arrogant dans les abominations. Et Dieu va juger tout ça. Et la responsabilité de l'Église, au sein d'un monde comme celui-là, c'est de se démarquer et de marcher avec Dieu. Parlons de la génération de Noé. Et je voudrais lire avec vous dans Matthieu, au chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Et on va lire les versets 38 et 39. Matthieu 24, versets 38 et 39. Et nous avons là les paroles de Jésus. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. C'est effrayant. C'est effrayant quand on sait le contexte. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Génération de Noé, les hommes mangent et boivent. Il n'y a rien de mal à ça s'ils ne mangent pas trop et s'ils ne s'enivrent pas. Il n'y a rien de mal, il faut manger et boire pour vivre. Ils se marient et ils marient leurs enfants. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est tout à fait légitime. Le problème, il est où? C'est que Dieu est absent de tout ça. Dieu, ils n'en ont rien à faire. Les affaires de Dieu, ils n'en ont rien à faire. Ils vivent dans l'incrédulité la plus complète. C'est la vie de tous les jours, le manger, le boire, la famille, un point, c'est tout. Mais ils ne se doutèrent de rien. Mais moi, je sais que dans cette génération-là, il y a un homme qui va avoir l'intelligence des temps et qui va l'avoir par une révélation, parce que j'apprends dans Hébreux 11, mais aussi dans la Genèse, qu'il a été divinement averti par le Seigneur. Et vous savez que la construction de l'arche ne s'est pas faite en quelques semaines. Donc les gens ont eu le temps de voir cette construction. Et Noé n'a certainement pas fait cette construction seul. Je pense que ses fils ont dû donner un bon coup de main. Et Noé a été là comme un témoin, comme un prédicateur de la justice. Et ils ne se sont doutés de rien. Fallait-il que le cœur soit endurci? La génération de Noé n'a pas l'intelligence des temps. Et là encore, je vais le dire, il y a des chrétiens qui vivent dans la routine d'une vie chrétienne tiède et stérile. Ce sont les choses de la vie. On ne peut pas dire qu'on vit dans le péché, mais on vit pour l'immédiat, les choses de la terre et la famille. Quand l'apôtre Paul a écrit son épître aux Philippiens, il l'a écrite en pleurant à un moment donné, et il a parlé de ceux qui marchent en ennemis de la croix, ils ont pour Dieu leur ventre, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce serait une évidence chez les païens. Mais Paul pleure parce que ce mal-là est dans une fraction de l'Église. Nous sommes donc appelés à avoir l'intelligence des temps, pour dire: Seigneur, il y a des choses qui m'échappent, mais si j'ai besoin de révélations, communique-moi ces révélations. On ne va pas basculer dans ce qui est mystique, dans ce qui est fanatique, dans le déséquilibre, pas du tout. Mais je crois que Dieu est capable de donner à son Église, quand c'est nécessaire, les directives dont elle a besoin, afin que nous marchions comme il convient. Génération de Lot, on va lire dans Luc, au chapitre 17 et au verset 28. On peut même lire au verset 27, oui, 27. Jésus revient sur la génération de Noé, et je lis le 27 pour qu'on fasse une comparaison. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Et Jésus enchaîne. Un autre temps. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Écoutez bien, là on passe à une vitesse de plus. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Donc une société de consommation où les hommes entreprennent, on achète, relations commerciales, relations sur le plan de ce qui doit être bâti, on construit. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. On retrouve le manger, le boire, les affaires, le commerce, les maisons, les cultures. Et on apprend aussi, par l'épître de Jude, l'impudicité et l'homosexualité. Et dans une espèce de microcosme, avec Sodome et Gomorre, vous avez comme une chute de civilisation. Et c'est un fait dans l'histoire que quand une civilisation en arrive à généraliser l'homosexualité, c'est la fin. On a l'impression que ce péché-là fait toucher le fond à une civilisation. Ça a été vrai pour Sodome et Gomorre, Ça a été vrai pour l'Empire romain, c'était vrai pour l'Empire grec, il y a une constante. À quoi assistons-nous aujourd'hui? À une banalisation de l'homosexualité. Ce qui était encore caché quand j'étais enfant, ce qui était encore honteux, devient un mode de vie aujourd'hui. Avec les Gay Pride, vous avez une arrogance dans l'abomination. Et ce n'est pas l'affaire d'un pays, c'est planétaire aujourd'hui. On a l'impression qu'on va toucher le fond. Et il faut que l'Église ait dans ce moment-là l'intelligence des temps. Vous savez que dans sa grâce, Lot a reçu de Dieu la révélation dont il avait besoin. Et Dieu a frappé fort. Il a envoyé des anges pour lui dire qu'il fallait qu'il se sorte de là et qu'il rejoigne la montagne de Dieu. Alors il va parler de ça à sa famille. Je ne sais pas où les filles avaient été chercher les gars pour se marier, mais aux yeux des gendres, Lot a paru pour un petit rigolo. Et les gendres ont dit, tiens, le beau-père est en train de faire une crise mystique, quoi. Aux yeux des gendres, Lot a paru plaisanter. Et vous savez avec quelle difficulté il est sorti de Sodome, ça n'a pas été évident. Les anges ont dû insister, l'empoigner pour qu'il sorte. Alors il sort avec sa femme, il sort avec ses deux filles, c'est tout. Et je me demande ce qui serait arrivé si Abraham, en amont de ça, n'avait pas plaidé avec Dieu. Je me demande ce qui serait arrivé. Alors on sort, et puis moi je viens de Normandie, alors je vais actualiser comme ça. Madame Lot regrette son armoire normande, toute ciselée, toute sculptée, elle pense à tout ça. Sa cave avec le calvados, les bouteilles de cidre, et elle se retourne. Et qu'est-ce qu'elle a à se retourner? Qu'est-ce qu'elle a à se retourner? Parce que tu regrettes ça? Parce que tu regrettes ça? Ce que tu as quitté? Alors c'est vrai que le Seigneur nous appelle à être le sel de la terre, mais pas une statue de sel. Et quand un chrétien, un foyer, une église, je vous le dis, et même un mouvement, commence à se retourner ce vers quoi il ne devrait jamais se retourner. Il cesse d'être un mouvement, il devient un monument, et c'en est terminé. Il faut que nous soyons, dans ce temps où nous sommes, des gens qui ont l'intelligence des temps, et qui vont dire, Seigneur, permets-nous d'aller jusque là où tu veux, la montagne de Dieu. Notre responsabilité d'Église, dans ces temps de la fin, n'est pas de nous retourner pour regretter ce que nous avons lâché, mais d'aller de l'avant avec toi. Et vous remarquez qu'il y a une faille chez Madame Lot, mais chez Monsieur Lot, ce n'est pas clair non plus. Ah, oh là là, c'est loin la montagne. Écoute, il y a Tsoar. Seigneur, on va couper l'évangile en deux si tu veux bien. Hein? On va faire un petit compromis tous les deux. Tsoar. N'est-elle pas petite, Seigneur? N'est-elle pas petite? Que je m'y réfugie. Qu'est-ce que les dieux fassent? Qu'est-ce que les dieux fassent? Dieu dit, bon, va Tsoar, j'épargne Tsoar. Et il y a des églises comme ça. Ah, Seigneur, c'est t'en demandes de trop. Et on commence, c'est ce qu'on disait avec Jean-François tout à l'heure. Il y a des moments, on donne des coups de canif dans la Bible. Ah non, non, mais il y a trop de chapitres, il y a trop de... Alors, Seigneur, si on pouvait faire partie du tsoarisme, un nouveau mouvement de Pentecôte, tu vois, le tsoarisme, pentecôtiste, où ce serait moins long, moins dur, on aurait des petits compromis de temps en temps, on pourrait dire, Seigneur, on va effeuiller la marguerite tous les deux, je désobéis un peu, beaucoup, on va pas aller jusqu'à passionnément à la folie, mais un peu. Un petit soir. Quand
à ce soir.
Qu'est-ce qui se passe là?
À ce soir.
Quand Lot a vu ce qui se passait, dans ce monde qu'il a quitté tout juste. Il a dit, oh non, non, je ne peux pas rester à Tsoar, il va à la montagne. Alors mon propos n'est pas de revenir en arrière, mais où ces filles ont-elles appris toutes ces bonnes manières pour que là, dans la caverne, il se passe ce qui s'est passé ? Là, dans la caverne, naîtront les Ammonites et les Moabites qui ont toujours été des ennemis du peuple de Dieu. Et moi, je vous dis que dans le temps où nous sommes, mes frères, mes sœurs, avec Dieu, ça va être au millimètre. Dieu attend un peuple qui va marcher avec lui, à fond, sans discuter, sans se retourner, sans avoir des tsoars devant nous, mais dire, je vais là où Dieu veut, et je veux marcher comme Dieu veut. Bien, la génération de Jésus. Vous n'êtes pas fatigué ?
Pas du tout.
Non, non mais sinon, il ne fallait pas venir. Hein. Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Verset 1er. Parce qu'on a pris les exemples de l'Ancien Testament. Maintenant, on est dans une génération au cœur du messianisme, si je peux employer ce mot-là. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, oh, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Écoutez bien, vous savez discerner les signes des temps, l'aspect du ciel, pardon, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Là, il y a quelque chose de très intéressant. Ces chefs religieux qui viennent voir Jésus auraient pu être employés à Météo France, sur une chaîne de télé, parce que c'était les champions des prévisions météo. Ah oui, quand ils regardaient le ciel le matin ou le soir, ils étaient capables de vous dire, il va faire beau, il va faire mauvais, il va y avoir de l'orage. Et Jésus leur dit, mais comment vous pouvez discerner l'aspect du ciel et vous êtes incapables de discerner les signes des temps. Jésus aurait tellement aimé avoir devant lui, sur le plan spirituel, des fils d'Issacar. Maintenant, je voudrais vous amener à considérer quelque chose avec moi. Au soir de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, il allait faire beau. Parce que le soir de l'Ancien Testament, le ciel est rouge du sang de l'agneau qui allait venir. Quel est le dernier chapitre de Malachie ? Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Le ciel est rouge de la rédemption. Et quand j'arrive au soir de mon Ancien Testament, je me dis, il va faire beau. C'est la grâce qui vient. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais au matin du jour de Dieu, le ciel va annoncer l'orage des jugements. Et cette génération-là ne discernait rien. Malgré les signes, les guérisons, les miracles, les prodiges, ils ne discernaient rien. Le soleil, le ciel avait été rouge le soir. La grâce viendrait. Et elle est venue, elle était là. Mais ils n'en faisaient rien. Et ils ne voyaient pas que, au matin, le ciel était d'un rouge qui allait annoncer l'orage. Alors regardez-le. On a trouvé un ânon, On met les vêtements sur l'ânon, Jésus s'assied sur l'ânon. Il y en a qui vont chercher des branches de palmier, c'est ce qui coûte moins cher. Hein. Il y en a d'autres qui mettent leurs vêtements, ça, ça coûte plus. Et puis, on acclame le Messie. Et même les gosses dans le temple vont reprendre ce qu'ils ont entendu de la bouche des grands. Il y a une leçon pour les moniteurs d'école dimanche. Et la foule est là, autour de l'ânon, autour de Jésus. On l'acclame. Attends, attends, approche-toi de l'ânon, regarde-le. Lui, Jésus, il pleure. Il est déjà dans l'intelligence des temps. Parce qu'il y a là une poignée de ceux qui contemplent le ciel de la rédemption, mais tout le reste ne voit pas les nuages du jugement qui arrive. Et il pleure. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Et Jésus annonce ce qui va arriver en l'an 70. On y sera bientôt, quelques décades tout juste. L'Empire romain va arriver, va tout raser, va tout saccager. Il le voyait déjà. L'intelligence des temps. Alors ce qui est arrivé du temps d'Enoch, de Noé, de Lot, de Jésus, arrivera pareillement et nous y sommes, je crois. Et je pense que ce que le Seigneur attend de nous, c'est effectivement que nous marchions avec lui, que nous ayons une consécration qui nous amène à vivre avec le Seigneur au millimètre près, sans discuter, en nous consacrant à lui, que nous ne regrettions rien de ce que nous avons laissé, mais que nous puissions faire confiance au Seigneur pour le présent et pour l'avenir, et puis que nous restions attachés à la grâce, que nous puissions nous fortifier dans la grâce, que nous croissions dans la grâce. Et je parle à des gens qui comprennent ce langage-là, que nous mangions la chair du Fils de l'homme et que nous buvions son sang. Que nous soyons de ceux qui aiment Jésus par-dessus tout et qui s'attachent à Jésus. Christ est ma vie. Et je voudrais aller vers la deuxième partie du message qui sera courte. Si on va jusqu'à 9h15, c'est bien ?
Oui, pas de souci.
Pas de souci ? T'es un bon frère, lui, il m'a... On me fait un geste comme ça, oui. Mais toi, t'as dit oui, franchement.
Amen. On peut aller jusqu'à 10 heures.
Non, non.
Oui, oui, jusqu'à minuit, non. C'est bon.
Alors, oui, d'autant plus que la fenêtre, même si quelqu'un s'endort sur la fenêtre, on est au rez-de-chaussée. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Il n'y a pas trop de soucis. Je te taquine. On va lire dans Romains 13. Dans Romains 13... Au verset 11. L'apôtre Paul vient de donner, dans tout son enseignement apostolique, dont il a l'art inspiré par le Saint-Esprit, il vient de donner toutes sortes d'enseignements, de prescriptions très pratiques dans la vie chrétienne pratique, et puis il enchaîne. Comme s'il voulait justifier le fait que Dieu nous demande tout ça. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Écoutez bien ça. Vous savez, vous les Romains, vous savez en quel temps nous sommes. Ces gens-là étaient des fils d'Issacar. Ils avaient l'intelligence des temps. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, on sent un homme qui est dans l'intelligence des temps. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je vais faire une petite confidence. Il y a eu un moment dans ma vie, ça remonte à quelques années, et je pèse mes mots, où le Seigneur m'a donné une révélation. Où j'ai été amené à étudier dans la parole de Dieu le thème de la lumière. Et j'y ai découvert, après des mois et des mois, seul devant ma Bible, avec le Seigneur, sans bouquin, sans commentaire, seul avec Dieu et ma Bible, que c'est certainement à mes yeux aujourd'hui, je dis aujourd'hui, le thème le plus important de l'Écriture. Et le Seigneur m'a montré qu'il est lumière avant d'être amour. On a ça dans l'Ancien Testament. On a ça dans le Nouveau Testament. Dès le prologue de Jean, on retrouve ça dans la première épître de Jean. Et on trouve que le tissu évangélique, si je me permets de m'exprimer ainsi, ce tissu évangélique est tissé de l'amour et de la lumière. Ça se tisse comme ça au fur et à mesure de l'évangile. Alors oui, il y a ce texte que vous connaissez très bien dans Éphésiens 5, où là, vous avez tout un condensé. Tout le chrétien est dans la lumière. Et tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, est fonction de la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Alors, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, parce que ce n'est pas à minuit qu'on essaie jusqu'au petit déjeuner demain matin. Mais regardez seulement ça. Paul ne dit pas aux Éphésiens, autrefois vous étiez dans les ténèbres. Mais il dit, autrefois vous étiez ténèbres. C'est la nature, c'est la vie. C'était la vie d'être ténèbres. Et il dit, maintenant vous êtes lumière. Il ne dit pas, vous êtes venu dans la lumière. Mais vous êtes lumière, il y a un changement de vie radical. Alors marchez comme des enfants de lumière, etc. Relisez. Dans votre chambre ce soir, c'est cette portion du chapitre 5 des Éphésiens, c'est impressionnant. Toute la vie du chrétien est fonction de la lumière. Bien, j'en arrive au texte de Romains. Vous savez en quel temps nous sommes. L'ignorance n'est bonne pour personne. Je suis impressionné du nombre de fois dans le Nouveau Testament, les apôtres disent « vous savez, nous vous rappelons à vous qui savez fort bien ». Où nous savons, nous savons, nous savons, on a l'impression que la connaissance pour l'Église est quelque chose de fondamental du point de vue des apôtres. Vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller. Ah, je vais vous rappeler mes moments de préadolescence et d'adolescence. Le collège où j'allais était assez loin de la maison. Fallait partir de la maison, faire un bout de chemin à pied pour aller prendre le bus qui m'amenait dans le centre-ville et après un bout de chemin assez long du centre-ville jusqu'au collège. Et me voilà, adolescent, vous imaginez la scène, dans ma chambre, dans le noir, dans les draps, sous la couverture, je dormais bien. Mais qu'est-ce que c'est bien de dormir ? Qu'est-ce que c'est bien de dormir ? Et tous les matins, je vivais un petit peu de l'épître aux Romains du chapitre 13. Mon père arrivait dans la chambre, ouvrait la porte, allumait la lumière. Ah, le contact avec la lumière quand vous dormez. Vous éclatez pas de joie, vous grimacez. Et il disait seulement, c'est l'heure. Mais quand je dormais dans le noir, il n'y avait que moi qui ne savais pas que je dormais. Mes parents étaient élevés avant moi. Eux savaient que je dormais. Mais moi, je ne savais pas. Il fallait que tous les matins, j'entende une voix me dire, c'est l'heure. Et quand un chrétien dort, quand une église dort, il y a quelle qui ne sait pas qu'elle dort ? Il faut qu'il y ait une voix qui arrive, qui allume la lumière. Oh, mais c'est pas possible cette mission-là, c'est pas possible, pas la nôtre, hein, mais je parle d'ailleurs. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il dit ? Ah, c'est l'heure ! Et là, vous sortez de je sais pas d'où, là, c'est horrible, c'est horrible. Alors vous commencez par secouer ce qui vous enveloppait. Bah oui.
Si on se lève.
Ah non, mais on va y venir. Il va falloir y venir, mon frère. Il va falloir y venir. Donc, vous vous débarrassez de ce qui vous enveloppe. Vous mettez un pied, puis deux pieds, puis vous sortez. Et là, je ne sais pas dans quel ordre on met les choses. On se lave. On s'habille. On mange. Et on sort. Parce que l'église, ce n'est pas le lieu où l'on vient, c'est le lieu d'où l'on part. vers les autres. Moi, je vois ça dans ma Bible. Les chrétiens se rassemblent, mais pour mieux repartir vers les autres. Parce qu'il y a une mission planétaire jusqu'aux extrémités de la terre, a dit Jésus. Alors, oui, je me lavais. Oui, je m'habillais. Oui, je mangeais. Et je partais. Pas parce que je ne serais pas parti au collège en pyjama. Parce qu'évidemment, il y a les vêtements pour la nuit, pour le sommeil, et il y a les vêtements pour le jour. Et ce n'est pas les mêmes. Vous imaginez un homme d'affaires qui revient du travail, son ordinateur, costume, cravate, et puis qui se dit, oh, bah, hop, je me glisse dans le lit comme ça, la femme dit, ben non, il y a une tenue pour la nuit. Mais le même homme d'affaires qui dit, oh, ben ce matin, j'ai pas le courage, je vais au travail. Alors, il y a l'attaché caisse, il n'y a pas de problème, il y a tout. Mais il y a le pyjama. Mais c'est, on est où, là? Et un de mes aînés dans le ministère, un homme de Dieu, m'a raconté ce qu'il a vécu un jour. Il visite une chrétienne zigane, puis il l'avait pas prévenu de la visite. Et il la visite dans sa caravane, et il arrive... Cette chrétienne zigane, toute gênée, mais qui le fait rentrer dans la caravane, gênée parce qu'elle n'attendait pas la visite et elle avait un corsage sale. Elle dit, excusez-moi frère, je vais me changer. Et le frère a été très gêné, je le tiens de sa bouche. Vous savez, une caravane, ce n'est pas un F-16. C'est une caravane. Il s'est dit, mais elle va changer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu, à une fraction de seconde, un malaise. Mais elle n'a pas eu le temps d'avoir le malaise longtemps parce qu'elle a réglé le problème. Elle a enfilé un corsage propre sur le sable. Oui, je le tiens de sa bouche. Et en France, on a des églises comme ça. Jésus, je suis amoureux de toi. Je te loue, je t'adore, je te glorifie. Tu es mon Dieu. Et Dieu dit, enlève ton corsage, qu'on se casse ce qu'il y a dessous. Parce que là-bas, je peux vous le dire, parce que je connais bien les églises là-bas, et certains chrétiens, on enfile le corsage propre sur le sale. On regarde des films porno le samedi soir. On est en boîte de nuit le samedi soir. Et le dimanche matin, on adore Jésus. J'avais été invité en Allemagne pour un camp de jeunesse. Et les organisateurs m'avaient dit, tu fais de l'édification parce que ce sont des jeunes chrétiens. Pas de problème, je prépare un message, j'avais fait toute une étude sur Timothée, un jeune de la Bible pour des jeunes, c'était bien, il y avait plein de choses à dire. Puis on est au milieu du camp. Et le Saint-Esprit me dit, ce soir tu arrêtes ça, et tu dénonces le péché, et tu y vas à fond. Mais Seigneur, les organisateurs, vous savez quand c'est comme ça, quand Dieu, quand vous n'êtes pas chez vous, bon. Mais finalement j'y suis allé, je suis allé presque faire de l'évangélisation et marquer la sainteté de Dieu, le péché et tout. Et je termine la prédication et je vois les jeunes qui commencent à s'effondrer en larmes. Ça pleure de partout, en sanglots. J'ai dit, mais je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors on a continué le moment de prière, les jeunes pleuraient, c'était de partout. Et puis, les organisateurs ont quand même fini la réunion, mais les jeunes se sont agglutinés autour de moi. On a besoin de vous voir, on a besoin de vous parler, etc. J'ai dit, écoutez, vous sortez et je vous prends un par un. On a dû finir vers 1h du matin. Je me suis réjoui et j'ai été catastrophé, les deux en même temps. Quand je suis sorti de là, j'ai dit à mes collègues pasteurs, nous avons du souci à nous faire. Des jeunes engagés dans des groupes de louanges, m'ont avoué fumer de la drogue, être esclave de la pornographie. Un jeune stagiaire pasteur qui conduisait les chants entretenait une relation adultère via le téléphone avec une jeune fille du camp. Et c'est tout ça que Dieu a sorti ce soir-là. Et ça durait, les confessions duraient toute la nuit. Alors bien sûr, avec les collègues pasteurs, on s'est réjouis de l'action du Saint-Esprit. Mais je me suis dit, mais il faut vraiment que nous entendions la voix de l'Esprit. C'est l'heure de nous réveiller. Alors qu'ajoute le Seigneur? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Et là, la rédaction de la parole de Dieu m'a posé problème, un petit peu comme Éphésiens, vous savez, ce que j'ai partagé avec vous ce matin. Parce que moi, si j'avais écrit la Bible, mais rassurez-vous, ce n'est pas moi qui l'ai écrite, il va aller mieux, j'aurais pas écrit ça. Ça ne me paraît pas logique. Enfin, si on veut être logique, qu'est-ce qu'on écrit ? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les œuvres de la lumière. Non, vous ne pensez pas que c'est logique ? Ou il n'y a que moi qui suis tordu ? Ou alors, on écrit « Dépouillons-nous donc des armes des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Là, il y a quelque chose qui m'a gêné. « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Et le Seigneur m'a dit d'abord, regarde bien, on se dépouille avant de se revêtir, c'est une loi. Regarde bien, Élie est monté au ciel, il a laissé tomber le manteau, Élisée va ramasser le manteau avec tout ce que ça signifie pour la suite. Il ne va pas chercher un manteau new look. Il reste dans la ligne, il continue dans la ligne. Parce que vous avez parfois des hommes qui prennent la suite des autres, et les anciens n'ont jamais rien compris. Ils arrivent et disent, le prédécesseur n'a rien compris avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah ben c'est sûr, on voit ce qu'on voit, hein. Il casse tout. Alors, le but n'est pas d'arriver derrière les autres en disant, maintenant, vous allez voir avec moi, ça va être super. Non, non, tu ramasses le manteau de l'autre. Si l'autre ne s'est pas trompé, si ça a été un ministère biblique, dans l'esprit, alors va pas chercher des trucs, tu ramasses le manteau. Mais avant de ramasser le manteau, Élisée a déchiré le sien. Lisez bien, c'est écrit dans votre Bible comme dans la mienne. On ne se revêt pas de quelque chose de puissant sans se dépouiller d'abord de ce qui nous colle à la peau. Donc Élisée déchire son manteau et il ramasse le manteau d'Élie. Je lis l'épître aux Éphésiens. Alors Paul parle des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, ils ont le cœur endurci, ils se livrent à la cupidité, à l'impudicité, à l'impureté, etc. Et il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Christ est une école, Christ s'apprend. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et il dit que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, de la vieille femme aussi, c'est le vieil homme dans le sens général, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Donc je me dépouille d'abord du vieil homme et je revêts l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est notre nouvelle nature. Oui. Je dirais oui, mais l'homme nouveau, c'est Christ. Il est le premier-né entre plusieurs frères. Il y a eu l'homme ancien, Adam, et ça a été la faillite, et vous avez l'homme nouveau avec Jésus. Et si je laisse Jésus envahir ma vie, je laisse entrer celui qui est l'homme nouveau, et cet homme nouveau va faire de moi un homme nouveau. Il n'y a pas un homme nouveau en moi si je n'y a pas l'homme nouveau qui est Jésus qui s'empare de ma vie. Dépouiller et ensuite nous revêtir. On a la même chose dans l'épître aux Colossiens où il est dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et en ayant revêtu l'homme nouveau. » Mais je reviens toujours à cette histoire qui me préoccupe, les œuvres des ténèbres, les armes de la lumière. Et le Seigneur m'a dit « Maintenant, écoute bien. » Et j'ai eu un cours biblique du Seigneur dans mon bureau, comme je les aime de temps en temps. Parce que parfois, c'est pas toujours agréable. Mais ce jour-là, j'ai eu un bon enseignement de la part du Seigneur. Il m'a dit, regarde bien, quand il est question des ténèbres, il n'y a pas d'effort à faire. Les ténèbres sont là, elles produisent des œuvres. Nous avons 5 enfants et 14 petits-enfants. J'ai jamais appris à mes enfants à mentir, à être poli, oui, à dire merci, oui, à manger proprement, oui, etc., etc. Mais à mentir, ça va tout seul. J'ai pas dit, attends, je te prends par là. Tu veux apprendre à mentir? Alors, une leçon, 10 points, premièrement, deuxièmement, 3. Et apprends bien tes 10 points pour savoir comment il faut désobéir ou mentir. Ça va tout seul, c'est les œuvres des ténèbres. Et quand le chrétien veut laisser libre cours à sa chair, les œuvres sont là. Ce sont les œuvres des ténèbres. Mais que nous voulions vomir les ténèbres et nous attacher à la lumière. Là, ce n'est pas des œuvres dont nous avons besoin, c'est des armes. Parce que le combat va commencer. Tu veux commencer à mieux lire ta Bible, non pas la lire pour dire « j'ai lu ma Bible », mais vraiment sonder la parole de Dieu, ça va être un combat. Ça va être un combat, je te le dis. Tu veux commencer à avoir une vie de prière plus intense parce que, oui, la prière, mais c'est pas vous. La prière, c'est pas de dire « Seigneur, je commence ma journée, bénis mon café au lait, que j'ai pas d'accident sur la route, que mon patron soit gentil et que j'ai eu une augmentation à la fin du mois. » Non, c'est pas ça. C'est de se tenir devant Dieu, c'est de se tenir devant Dieu dans un réel combat. Je pense pas qu'on aura le temps demain matin de partager ce que le Seigneur a construit dans mon cœur au niveau de la prière. Mais je sais en tout cas que quand on veut chercher Dieu à la dimension de Dieu dans ce domaine-là, c'est un combat. Et vouloir aller dans le sens de la lumière, c'est revêtir les armes. Seigneur, j'ai besoin de combattre contre mon emploi du temps. Il y a des gens qui me disent là-bas, mais pasteur, je voudrais bien, mais j'ai pas le temps. Mais arrête, t'as le temps de regarder 1h30 ton film tous les soirs et t'as pas le temps de prier. Mais à qui tu vas faire croire ça? Alors oui, ça demande un rééquilibrage dans notre emploi du temps, dans nos valeurs. Ça demande un combat incessant. Et puis, la parole de Dieu me dit de marcher loin, l'ivrognerie, les luxures, la pudicité, etc. Marcher loin. Ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas de la faiblesse. Les chrétiens qui disent « Ah, moi, je peux lire ça, ça ne m'influence pas, ça ne me souille pas, je peux regarder ça, ce n'est pas pour autant que je le ferai. » Mais nous ne sommes pas à marcher à la limite, à la frontière de ce qui est pourri et saint, mais de marcher le plus loin possible de ce qui est mauvais. Un roi cherchait un chauffeur. Alors on fait venir un homme, il dit « Qu'est-ce que vous êtes, comment vous êtes capable de conduire si vous êtes sur une route dangereuse de montagne ?»« Oh, moi je suis capable de rouler à 1 mètre du précipice et d'y aller. » Ok, ben c'est bien ça. Viens un deuxième. Oh, lui, mais moi, je maîtrise le volant et je suis capable de rouler à 50 cm du précipice et je suis capable d'aller très très vite. Ah, c'est super bien ça. Viens, arrive le troisième, il entend la même question. Oh, il dit, écoutez, sire, moi, je roule le plus lentement possible et le plus loin possible du précipice. Vous êtes le chauffeur qu'il me faut. Il faut marcher loin. Et non pas près de ce qui peut nous faire tomber. Marcher loin de ce qui est mauvais. Et puis, je termine. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Revêtez-vous. Tout à l'heure, il fallait revêtir les armes. C'est déjà magnifique. Si on arrive à ça, c'est déjà magnifique. Mais on est loin du compte. Parce qu'après les armes, la parole de Dieu me demande de revêtir Jésus. C'est-à-dire le combattant. Si j'ai l'arc dans la main, c'est bien. Mais franchement, comment est-ce que je vais pouvoir tendre l'arc comme il convient, dans la bonne direction, et atteindre le but, si, comme le dit le psalmiste, mes mains ne sont pas fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Et il dit alors, mes mains tendent l'arc. Je crois que ce n'est pas parfois les armes qui nous manquent, nous les avons et nous les utilisons, mais nous ne permettons pas au grand chef de prendre les choses en main. Prier, nous avons toutes les bases théologiques, doctrinales là-dessus, on est bibliquement correct. Mais quelle différence quand nous pouvons être revêtus du combattant et que là, dans notre intimité, dans notre seul à seul avec lui, c'est lui qui commence à combattre avec nous et au travers de nous pour prier. Notre prière a une autre dimension, une autre puissance. Paul dit « priant par le Saint-Esprit ». Je revais Jésus, Et alors c'est lui qui s'occupe de mon bouclier, de ma ceinture, de mon épée, de mon casque, de mon salut. Parce que je n'ai pas seulement revêtu les armes, j'ai revêtu le grand capitaine. Et je crois que avoir l'intelligence des temps, c'est tout ça. Savoir en quel temps nous sommes et de dire, Seigneur, oui, tu m'as permis d'être éveillé, réveillé. Je ne me sens pas concerné par certaines choses de ce texte. Alors tiens-moi en éveil. Tiens-moi en éveil. Et que ma vie puisse garder le cap, mais plus encore, que je franchisse de nouvelles étapes avec ta grâce. Je pense que nous ne soupçonnons pas ce vers quoi le Seigneur est capable de nous conduire. J'ose le dire, parce que je m'en vais, donc c'est facile pour moi de vous dire ça. Mais vous savez, notre Dieu est grand, très grand. Les savants viennent de découvrir récemment 1 milliard de galaxies que nous ne connaissions pas jusqu'alors. 1 milliard de galaxies de plus. Et Dieu est encore au-dessus de tout ça. Eh bien, vous savez ce que je crois. C'est que vous ne soupçonnez même pas ce que Dieu peut faire avec l'Assemblée de Nyon. C'est infiniment au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dieu est le Dieu qui est capable de secouer une ville, une région, un pays. Je crois ça de toute ma force. Et je vais vous dire, dans le temps où nous sommes, c'est la seule chose qui me tient. Notre Occident va mal, très mal. Et je pense que pour l'Église, les jours sont comptés, je vous le dis. Nous ne nous reverrons peut-être jamais, mais je voudrais vous dire ça. Dieu attend un peuple qui va avoir l'intelligence des temps pour le chercher et dire « Seigneur, tu es capable de faire des grandes choses. On en a assez du grappillage. On veut des moissons. Nous nous réjouissons pour les choses glorieuses que tu fais, mais donne-nous des temps meilleurs, plus puissants, plus glorieux. On a faim et soif de ça. Visite-nous, fais-nous grâce. Amen. »